un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. On va être sur une courbe exponentielle, assure Jean Castex. Le gouvernement a promis d'amplifier, accélérer et simplifier sa stratégie vaccinale très critiquée. Mais sur le terrain, pour l'instant, encore beaucoup de flottement, nous dira Bénédicte Robin. Le click and collect a limité l'impact de la crise sanitaire sur les libraires. En 2020, les ventes des librairies ont reculé de 3,3%. Olivier Duhamel visé par une enquête pour viol et agression sexuelle après les révélations de Camille Kouchner, belle-fille du politologue. De tels crimes restent trop impunis en France, s'alarme la psychiatre Muriel Salmona, nous l'entendrons. Élection sénatoriale à fort enjeu dans l'état de Géorgie, elle donnera la couleur du Sénat américain. Le scrutin s'annonce serré. Reportage de Sébastien Paour à Atlanta. Face à l'accélération de la pandémie de Covid-19, l'Angleterre et l'Écosse ont dû se résoudre à reconfiner. Les écoles laissées jusqu'à présent ouvertes ont fermé et les plus défavorisés risquent une nouvelle fois d'être les plus fragilisés par ce nouveau confinement. Reportage à Londres de Marie-Pierre Véraud.
La Grand-Rue de Kentish Town est bien moins animée que d'habitude. Dans ce quartier de classe moyenne et populaire du nord de Londres, chacun porte un masque et c'est assez nouveau. Chris Covey, une retraitée de 67 ans, s'en félicite et elle soutient totalement le confinement décrété par Boris Johnson.
Au moins, on a une certitude. Ces derniers mois, il y a eu tellement de décisions, dans un sens ou dans l'autre, on était perdus. Maintenant, on a un confinement, on peut compter là-dessus. Je sais qu'il va peut-être durer 2 ou 3 mois, mais j'espère que cela nous permettra de sortir de tout cela et de revenir à une vie normale.
Au supermarché Discount, un peu plus loin, les files s'allongent. Chacun vient faire des provisions. Maureen remplit 2 gros cabas. J'ai acheté de la viande, dit-elle, beaucoup de viande et des plats préparés. C'est en prévision du confinement, on ne sait jamais. Si on doit rester enfermé, il faut s'organiser. La plupart des magasins ont baissé le rideau. À un arrêt de bus tout proche, Terry, qui travaille dans la musique, est lui désabusé.
On en a marre de tous ces confinements. Je ne vois aucune amélioration. Le virus galope toujours. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on risque un effondrement de l'économie. Ça touche le business, ça touche tout le monde.
Le gouvernement britannique vient d'annoncer un nouveau plan d'aide de plus de 5 milliards d'euros pour soutenir entreprises et commerces. Mais beaucoup doutent déjà qu'il soit suffisant.
Marie-Pierre Véraud, à Londres, l'Allemagne devrait, elle, prolonger ses restrictions au-delà du 10 janvier. La plupart des commerces, les écoles, lieux culturels et restaurants devraient garder porte close. En France, très en retard sur son voisin allemand, la vaccination va être amplifiée, accélérée et simplifiée, affirme le ministre de la Santé. Olivier Véran a annoncé que les personnes âgées de plus de 75 ans, hors EHPAD, pourraient se faire vacciner d'ici fin janvier. Les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans vont aussi pouvoir être vaccinés, au même titre que les personnels de santé de plus de 50 ans. Donc, les Français qui le souhaitent pourront s'inscrire pour se faire vacciner, assure le ministre. Mais cette accélération de la vaccination, Bénédicte Robin, n'est pas encore très visible sur le terrain.
L'écart entre le discours plein de volontarisme du ministre de la Santé et la réalité du terrain. Roland Sicard, le président de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine d'Avignon, le résume plutôt bien.
Pour l'instant, les agences régionales de santé ne nous ont pas concrètement appelé, informé pour nous dire « voilà, ça va se passer comme ça, telle semaine, à tel moment ». Voilà, on n'a pas plus d'infos que la simple information qu'il y a eu, que tout le monde a eu, que les personnels de santé de plus de 50 ans dans des hôpitaux allaient pouvoir accéder au vaccin. C'est frustrant de savoir que le vaccin est là, mais on n'a pas plus d'infos que cela.
Et d'autant plus que la grande majorité des personnels soignants de son établissement seraient prêts à être vaccinés. Pour lui, il faudrait peut-être revoir les priorités pour les personnes à vacciner.
Sur l'Institut du cancer d'Avignon, nous prenons en charge 3000 patients jour, que ce soit à l'intérieur de nos murs et hors des nos murs, et on sait que sur ces 3000 personnes, elles sont particulièrement à risque et exposées, et on a à cœur de les sécuriser le plus tôt possible et le plus vite possible pour ouvrir le spectre beaucoup plus largement pour utiliser ces vaccins qu'on a sous la main et ne pas les laisser dans des frigos à moins de 80.
Et Roland Sicard se désole de la verticalité des décisions et le manque de concertation.
On aimerait bien pouvoir être régionalement, localement, partie prenante des débats avec l'agence régionale de santé, avec notre partenaire de l'hôpital public et voisin. On a toutes les capacités, on a tout l'outillage, on a tout le matériel pour prendre en charge. Et voilà, on est impatient de voir descendre les directives et les consignes pour qu'on puisse agir.
Car la vaccination est une course de vitesse, conclut-il, contre une maladie qui fait plusieurs centaines de morts chaque jour.
Bénédicte Robin, et alors, une fois que l'on aura accéléré la vaccination en France, va-t-on peut-on manquer de doses de vaccins? La question posée notamment par des élus, les Républicains, trouve sa réponse à Bruxelles puisque c'est la Commission européenne qui a coordonné les achats. À ce jour, seul le vaccin produit par Pfizer-BioNTech est autorisé sur le marché. Demain, l'Agence européenne du médicament pourrait donner son feu vert à la commercialisation de l'américain Moderna, mais ça ne suffira pas pour vacciner la population. Alors, les commandes ont-elles été suffisantes, Angélique Boin ?
La Commission européenne a subventionné la recherche dans 6 laboratoires prometteurs dans le monde entier et pré-réservé pour les 450 millions d'Européens près de 2 milliards de doses, 300 millions pour le premier vaccin à avoir franchi la ligne d'arrivée, celui de Pfizer-BioNTech. On n'a pas voulu mettre tous nos œufs dans le même panier, explique le porte-parole Stéphane de Kersmacher. La Commission a donc misé sur des méthodes scientifiques différentes, anciennes et nouvelles générations de vaccins, et imposé une fabrication sur le sol européen pour éviter tout problème logistique. Aurait-elle dû commander plus de doses de Pfizer, cela se heurterait de toute façon à un problème de lenteur de fabrication. L'usine belge de Pürs est à plein régime. Une seconde plus petite doit monter en régime en Allemagne. Selon certaines sources, Pfizer pourrait à terme utiliser les lignes de production de concurrents pour aller plus vite, mais rien n'est ficelé. Faut-il tout de même relancer des commandes ? La Commission, au nom des 27, négocie déjà des doses supplémentaires de ce vaccin. Certains États font aussi cavalier seul. L'Allemagne, qui espère bien récupérer en direct 30 millions de doses en plus de sa dotation européenne dans le cadre d'un accord bilatéral de cofinancement des recherches. Sur le papier, rien n'interdit à la France de faire pareil. Les négociations en direct sont possibles. La Commission n'a servi que d'intermédiaire. Mais qu'un État négocie de son côté au mépris de la clé de répartition, décidée collectivement, n'est évidemment pas dans la ligne de solidarité affichée dans ce dossier, se désole une source européenne.
Angélique Boin, envoyée spéciale permanente de France Culture à Bruxelles. L'impact économique de la crise sanitaire est bien sûr visible dans les nouvelles prévisions économiques de la Banque mondiale. Après une contraction de plus de 4% en 2020, l'institution qui accorde des prêts aux pays en développement table sur le retour de la croissance économique mondiale cette année à plus 4%. Même à Rivieno, cette prévision suppose que le déploiement du vaccin anti-Covid se généralise tout au long de l'année.
Les prévisions reposent toujours sur plusieurs scénarios. Aujourd'hui, la vaccination n'est plus dans le scénario optimiste, mais central. Les prévisions de la Banque mondiale pour 2021 sont donc meilleures que celles qui avaient été faites au printemps, mais elles dépendent de la vitesse de déploiement du vaccin et de la capacité des États à réformer leur économie dans un sens favorable à l'investissement, écrit la Banque mondiale. Elle prévoit 3,5% de croissance dans la zone euro, aux États-Unis et dans les pays en développement en 2021, mais 7,9% en Chine. Après avoir été le seul pays du monde à ne pas être en récession l'an passé, la Chine est donc censée à nouveau tirer la croissance mondiale vers le haut. Qui dit retour de la croissance ne dit pas retour à la normale. La pandémie a inversé la tendance à la baisse de la pauvreté dans le monde pour la première fois depuis une génération, écrit la Banque mondiale. Elle devrait plonger plus de 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. 2020 aura été l'année de l'explosion de l'endettement public et privé. Partout, mais dans les pays émergents et en développement déjà surendettés, le risque de crise financière n'est pas à exclure. Incapacité à juguler l'extension de la pandémie, faillite en cascade, aversion au risque et incapacité des États à contenir les tensions financières qui en découlerait, c'est le scénario le plus pessimiste. Dans le plus optimiste, la Banque mondiale imagine que la crise du Covid aura peut-être suscité un nouvel élan multilatéral propice à la croissance.
Marie Vienno, en France, les restaurateurs restent très soucieux. Ils demandent des perspectives, une date de réouverture, mais ils vont devoir attendre au moins jusqu'à jeudi pour avoir des informations de la part du Premier ministre. Et les organisations syndicales du secteur de l'hôtellerie-restauration ont eu un rendez-vous à Bercy cet après-midi. Il est question que le fonds de solidarité soit élargi au-delà des 200 000 euros de plafond pour toucher les grands groupes du secteur. En ce qui concerne les libraires qui ont subi deux périodes de fermeture, l'heure est au relatif soulagement. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le syndicat de la librairie française, on est loin de la catastrophe annoncée, notamment grâce à la pratique du click and collect. Écoutez Anne Martel, présidente du syndicat de la librairie française.
C'est un bilan en demi-teinte avec une baisse d'activité qui est relativement limitée de 3,3%. Donc, décembre, qui a été vraiment excellent en librairie, a permis de limiter la casse et de rattraper en partie 3 mois de fermeture administrative. la mise en place du click and collect et de la vente à expédier a permis à des librairies petites et moyennes de montrer qu'elles étaient capables aussi de travailler le livre via une plateforme Internet. C'est un petit peu le sens de l'histoire, mais ça n'est pas toute l'histoire des librairies. Il faut que les librairies continuent à accueillir, à conseiller et à dénicher les pépites. On s'est aperçu pendant le premier confinement, où il y avait eu une majeure partie de click and collect, qu'il y avait 18% de variétés de titres en moins qui se sont vendus. Ça veut dire aussi que le libraire, quand il est ouvert, eh ben, il va permettre à l'édition française de vendre une variété de titres de 18% supérieure à ce qu'on fait sur une plateforme Internet. Et tous les algorithmes du monde ne changeront pas cette donne-là. Il faut absolument préserver la librairie physique et la défendre.
Anne Martel répondait à Benoît Grossin. Le gouvernement a autorisé le retour des étudiants fragiles dès cette semaine à l'université, mais la plupart ne reprendront pas le chemin de leur fac avant au mieux la fin janvier, si la situation sanitaire le permet. Tout ça n'est déjà pas simple à gérer, mais dans de nombreuses universités, on est en pleine période d'examen, organisée selon les cas, en présentiel ou à distance. Comment ça se passe? C'est ce que vous avez cherché à savoir, Hakim Kasmi.
Pierre est en première année de licence maths informatique à l'université de Strasbourg. Il a passé ses partiels juste avant les vacances de Noël. Des examens qu'il a dû passer en partie en distanciel de chez lui derrière son écran d'ordinateur, en devant répondre à des QCM, mais aussi en présentiel en devant se rendre à sa faculté. Non, sans appréhension, au vu des conditions inédites dans lesquelles il a dû se préparer et suivre ses cours au premier semestre.
J'ai eu plusieurs fois certains cours qui était censé être enregistré, sur lesquels je comptais m'appuyer pour pouvoir réviser, donc revoir le cours et tout. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que l'enregistrement était soit complètement de mauvaise qualité, soit inexistant. Et puis après, l'autre difficulté, c'est certains professeurs qui n'étaient pas là et sur des matières sur lesquelles j'aurais bien aimé m'appuyer un peu plus pour équilibrer un peu ma moyenne finale.
Alors, si Pierre attend ses résultats, qui doivent tomber la semaine prochaine, d'autres étudiants continuent de passer actuellement leurs examens, sauf qu'une partie d'entre eux refuse de s'y rendre, de peur d'être contaminés, car le protocole sanitaire n'est pas toujours très bien respecté, comme nous l'explique Paul Maillot, président de la FAGE, qui est la première association étudiante.
Au-delà des amphis, qui sont quand même plutôt bien organisés, de manière assez générale, ça va être dans les échanges de couloirs, ça va être entre les sessions d'examen, c'est des couloirs qui sont bondés, c'est des salles de restauration qui ne sont pas ouvertes. Il y a des jeunes qui viennent en examen qui n'ont pas la possibilité de se restaurer le midi. Enfin, voilà, il y a plein de difficultés là à l'heure actuelle pour des jeunes qui ont repris les cours et qui ont repris les examens en présentiel.
De son côté, Guillaume Gelet, le vice-président de la CPU, la conférence des présidents d'université, qui est également président de l'université de Reims, rappelle que les épreuves en présentiel sont réduites au strict minimum en fonction de l'appréciation des équipes pédagogiques.
Les examens organisés en présentiel donc sont organisés dans des salles avec une distanciation entre les tables supérieure à 1 mètre. On doit gérer notamment l'accès à ces salles, l'aération des salles, la désinfection des supports. Bref, voilà, sur le plan sanitaire, quelque chose de très strict, ce qui fait qu'il est extrêmement complexe d'organiser des examens pour des grandes cohortes d'étudiants et qu'il faut intégrer en fait dans l'utilisation de nos locaux, bien évidemment, les temps d'accès aux salles d'examen et les temps de sortie des salles d'examen, ce qui rend l'exercice compliqué.
Désormais, les étudiants restent suspendus aux annonces du Premier ministre, qui devrait indiquer jeudi si les travaux dirigés pourront reprendre, avec une jauge de 50% à partir du 20 janvier.
Hakim Kasmi. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête pour viol et agression sexuelle à l'encontre d'Olivier Duhamel. Le politologue réputé, ancien chroniqueur sur France Culture, est accusé publiquement par sa belle-fille, Camille Kouchner. Dans son livre « La Familia Grande » qui sort ce jeudi aux éditions du Seuil, elle raconte que son frère jumeau a été victime d'actes pédocriminels de la part de leur beau-père. Son frère avait alors 14 ans. Au fil des mois, les affaires de ce type semblent se succéder, comme si la parole se libérait. Mais ce que dénoncent au contraire nombre d'associations, c'est le déni qui continue d'entourer la pédocriminalité en France, dans la famille et dans toute la société, parce que ces actes, Cécile de Kervas-Doué, restent trop largement impunis.
Oui, et c'est sans doute ce qui explique qu'elles se fassent entendre finalement les victimes via d'autres chemins que celui de la justice, notamment via les livres ou par voie de presse. Car en France, les chiffres sont ahurissants. Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles. L'association Face à l'inceste estime même que 6 700 000 personnes sont victimes d'inceste. Et pourtant, moins d'1% des victimes de viol vont pouvoir aller obtenir gain de cause en cour d'assises. Pourquoi ? Parce que malgré les recommandations au niveau européen, la France n'a toujours pas adopté de seuil d'âge pour le consentement aux relations sexuelles. Seuil d'âge que le Parlement européen a lui fixé à 18 ans. La France n'a pas non plus adopté les recommandations européennes d'imprescriptibilité des crimes sexuels pour les violences faites commises sur les enfants. D'où la colère des associations et notamment de la psychiatre Muriel Salmona. Elle est présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie.
Pourquoi le Conseil d'État s'est opposé au seuil d'âge ? Pourquoi la loi qui avait été votée sur la levée de prescription en cas de crime en série et en cas d'amnésie traumatique, ça avait été voté par le Sénat ? Pourquoi ça a disparu en commission mixte paritaire ? Il y a des gens pour qui ça a rejeté, c'est pas possible. En plus, l'impunité quand elle touche tous les milieux et dont les puissants, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont tout intérêt à ce que l'impunité continue. De toute façon, tous les autres pays nous regardent avec un drôle d'air, hein, franchement, hein, parce que moi je travaille au niveau international. Vraiment, mais même en RDC, ils me disent que quand même, il y a un problème en France, on a une drôle de vision des enfants. Je veux dire, c'est fou, et c'est la honte, franchement c'est la honte la plus totale. Hein.
Autre scandale, estiment les associations, la France ne soigne pas ou soigne mal les victimes de violences sexuelles. Une centaine de centres de prise en charge des victimes donc, de ces violences sexuelles avaient été promis par le gouvernement, mais seuls 10 ont finalement ouvert. Sur ce sujet, l'association Mémoire Traumatique a donc promis de porter plainte contre l'État français.
Cécile de Kervas-Doué, nous avions consacré un grand reportage à la prévention de la pédocriminalité. Je vous invite à le retrouver sur franceculture.fr. Le français Salah Abdeslam et 9 autres inculpés du dossier des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles sont renvoyés devant une cour d'assises. 3 des inculpés de ce dossier tentaculaire bénéficient d'un non-lieu, faute de charges suffisantes. Cette double attaque suicide perpétrée le 22 mars 2016 à l'aéroport puis dans une rame du métro de Bruxelles avait fait 32 morts et plus de 340 blessés. Nous allons à présent dans le sud des États-Unis. Les habitants de la Géorgie se rendent aux urnes après une extraordinaire campagne qui a mobilisé Donald Trump et Joe Biden. Il faut dire que cette élection sénatoriale partielle aura un impact décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau président démocrate puisqu'elle va sceller le sort du Sénat américain. On vous retrouve, Sébastien Paour, devant un bureau de vote à Atlanta.
Oui, où il n'y a pas foule devant ce bureau, ce gymnase qui sert de bureau de vote. On est dans le quartier de Dunbar, banlieue sud d'Atlanta. Ici, l'électorat est en grande majorité noir. Il fréquente peu les urnes. Christelle a voté par anticipation, mais elle est tout de même venue mobiliser les riverains. Nous avons besoin d'argent en avance, du chèque de relance. Nous avons besoin d'avantages en matière de santé. Et nous avons juste besoin que ce soit mieux pour les nôtres. Et je pense qu'Ossoff et Warnock vont être géniaux. Nous avons toujours été un État républicain jusqu'ici. Et puisque nous avons gagné les élections, on doit maintenant gagner les sièges au Sénat. Nous avons juste besoin, dit-elle, d'un peu plus de démocrates. Les démocrates qui doivent emporter les 2 sièges de l'État, vous le savez, pour reprendre la majorité au Sénat et faire changer un quartier qui en a bien besoin. Jeffrey est afro-américain de 33 ans. Il vient aussi de voter démocrate.
It's a historic black community. Once upon a time, it was a bad
community. C'est une communauté noire historique. Il fut un temps où c'était une mauvaise communauté. Beaucoup de gens se faisaient tuer, voler. C'est toujours une zone infestée par la drogue. J'essaie de trouver un emploi ici. Nous devons voter. Tout le monde doit voter. Les sondages donnent les candidats au coude à coude ici en Géorgie. Résultat, sans doute pas ce soir. Le dépouillement pourrait prendre plusieurs jours, comme lors de la présidentielle il y a 2 mois, où il avait fallu plusieurs jours, vous vous souvenez, pour départager Biden et Trump et donner la victoire pour à peine 12 000 voix, finalement, aux candidats démocrates.
Sébastien Paour, en direct d'Atlanta. En Norvège, plus de la moitié des nouvelles voitures immatriculées sont désormais électriques. C'est le premier pays au monde à passer ce cap des 50%. Mais il y a un paradoxe, Léopold Picot.
La Norvège incite depuis des années à acheter électrique, des dérogations pour passer sur des voies de bus aux dispenses de péage en passant par une politique fiscale ambitieuse. En temps normal, les modèles électriques sont chers, mais la Norvège taxe le moins possible les voitures électriques pour les rendre compétitives. En 2020, l'État norvégien a ainsi perdu près de 2 milliards d'euros de taxes sur les voitures électriques. Le problème, c'est que la politique de soutien d'achat aux voitures électriques, elle, est financée par les hydrocarbures. C'est tout le paradoxe norvégien. Son immense fonds souverain, le premier au monde qui pèse plus de 1200 milliards de dollars, est en grande partie tiré de leur excédent de pétrole et il lui permet de compenser ses investissements dans la transition écologique. Si les Norvégiens diminuent actuellement leur production de pétrole, ils augmentent leur production de gaz, ils en sont les troisièmes producteurs au niveau mondial. La voiture électrique norvégienne est donc propre en fonctionnement, car l'électricité qui l'alimente est renouvelable, mais ce sont les hydrocarbures qui permettent aux Norvégiens d'acheter électrique.
Demain mercredi, temps gris et froid avec parfois un peu de neige. Il fera souvent moins de zéro au petit matin, entre 1 et 9 degrés l'après-midi du nord au sud, jusqu'à 12 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.